I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Je suis véritablement devenue féministe en devenant mère, parce qu'avant ça, je pensais pas à ces choses-là. À la maternité, tout le monde prend le bébé dans les bras, mais personne ne prend la mère. Bah, je voulais qu'on me prenne dans les bras.
La mère est le parent par défaut, et puis le conjoint aide, voilà, c'est l'assistant, le commis, quoi.
Ils ignoraient que ce serait aussi dur que ça, je pense.
Ouais, il doit vivre un enfer.
Pourquoi tu m'as jamais aimé ?
T'aimer ? Mais qui a dit que je dois t'aimer ?
C'est qu'il s'agit de déconstruire l'existant pour créer du nouveau. Mmh. Et le nouveau, c'est la parentalité.
Bienvenue dans mon cabinet. Je suis Mathilde Bouichou, psychologue clinicienne spécialisée en périnatalité. Je reçois, j'accompagne des femmes, des hommes, des futurs parents, des couples aussi, autour de toutes les questions qu'ils peuvent se poser sur leur parentalité, leur devenir parent. Ça peut aller lorsqu'ils s'interrogent sur leur désir d'enfant, aux difficultés qu'ils peuvent rencontrer pendant la grossesse, aux questions d'infertilité, au parcours de PMA, et puis aussi autour de toutes les questions éducatives qu'ils peuvent se poser avec leurs enfants. Bonjour Claire.
Bonjour.
Qu'est-ce qui vous amène aujourd'hui Claire ?
Eh bien moi je viens aujourd'hui pour vous parler de mon expérience de début de maternité. Mm-hmm. J'ai eu un fils il y a un peu plus de 2 ans et demi, en 2018. À l'issue de cette grossesse et à l'arrivée de mon fils, j'ai eu une révélation féministe. Mm-hmm. Voilà, rien
qu'est-ce
que ça.
Qu'est-ce qui s'est passé ?
Eh bien, je me suis retrouvée... avec des difficultés pendant le postpartum, dans les mois qui ont suivi l'accouchement. Et je me sentais isolée. Je pense que mon baby blues s'est un peu étiré. J'ai eu des difficultés à mettre en place l'allaitement. J'ai eu un vrai sentiment d'isolement et j'étais assez triste. Et tout ça mélangé a nourri une réflexion qui m'a menée vers un grand sentiment de colère, en fait. J'avais l'impression qu'on ne m'avait pas du tout expliqué que ça allait se passer comme ça. Qu'on m'avait pas du tout prévenu que ça allait être des moments difficiles, potentiellement difficiles. Ça l'est pas pour tout le monde, mais moi je l'ai vécu durement. Et de cette colère, comme je savais pas trop quoi en faire au début, j'ai commencé à réfléchir pourquoi j'étais en colère, pourquoi j'étais en colère contre la société, contre mon conjoint et contre ma famille, ma belle famille. Pourquoi cette naissance qui devait être quelque chose de joyeux, quelque chose de bienfaiteur, a été quelque chose d'assez délétère pour moi. Comme je ne me laisse pas abattre et que je suis quand même de nature assez combative, j'ai décidé de transformer cette colère en quelque chose de positif. Et donc, c'est de là est né mon engagement.
Vous parlez là donc d'un sentiment de décalage, finalement, que ce qui s'est passé pour vous et la manière dont vous avez vécu cette entrée dans la maternité était très différente de ce que vous vous attendiez. À quoi vous vous attendiez ?
Je m'attendais à quelque chose de... Je ne sais pas, ça c'est une très bonne question. En fait, pendant la préparation à l'accouchement, on vous parle des soins au bébé, on vous parle de comment on s'en occupe, de l'alimentation, de toutes ces choses qui sont très pragmatiques, mais on vous dit jamais vraiment ce qui va vous arriver. Et quels sont les effets sur le mental, quels sont les effets psychologiques de l'arrivée d'un enfant dans une vie, et sur les bouleversements que ça peut impliquer. On vous met jamais vraiment en garde contre ce qui peut être vraiment très dur. Donc, je ne m'attendais pas à grand-chose. Mais ce qui est sûr, c'est que je ne m'attendais pas à être malheureuse. Je ne m'attendais pas à me sentir si seule. Quand on fait un bébé, c'est pour rajouter une personne dans la famille et non pas pour se sentir seule. Et ça a été un grand choc. Je me suis sentie flouée. Je me suis dit, mais... Ah non, c'est une arnaque, cette histoire. On fait des enfants, on vous incite, hein, parce que la société... est très hétéronormée et basée sur la famille, bah on vous incite à faire des enfants parce que c'est génial, parce que c'est beau, parce qu'être une mère, c'est ce pour quoi on est faite, hein, nous les femmes. Il y a quand même une vraie
incitation à ça. Donc, et ce bébé était désiré. Hein. Moi, j'avais toujours voulu avoir des enfants. Et donc, cet enfant était désiré. Et une fois qu'il est arrivé, j'ai senti que j'avais rempli cette fonction qu'on attendait de moi, mais que ça ne m'épanouissait pas totalement. Et qu'en plus de ce manque d'épanouissement, parce que, bon, un nourrisson, c'est difficile et c'est contraignant, c'est une vraie privation de liberté au début, bon. Certes, au-delà de ça, j'ai senti qu'il y a quelque chose qui clochait parce que je me retrouvais un peu seule responsable de cet enfant que j'avais fait avec mon conjoint. Et qu'autour de moi, j'avais assez peu d'appui. J'étais clairement pas prête à ça, j'étais pas armée pour m'occuper seule d'un bébé. Je crois que personne ne l'est. Hein.
Bien sûr. Votre conjoint, il a perçu votre colère ?
Oui, parce qu'on s'est beaucoup disputé les premiers mois de la vie de mon fils. Parce que justement, on était en décalage. Moi, je vivais ce postpartum un peu difficilement. J'étais pas dans un cas de dépression postpartum, ni de difficultés maternelles particulières. Le lien était fait avec mon bébé, il n'y avait pas de problème de cet ordre-là. C'était vraiment la fatigue extrême que toutes les mamans vivent les premiers mois. Et j'avais eu aussi des difficultés à mettre en place l'allaitement, donc je souffrais physiquement de ça. Et puis c'était éreintant et j'étais aussi très déprimée de ce sentiment d'échec, de ne pas y arriver bien, de ne pas être la mère parfaite que je pensais qu'on attendait de moi. Donc moi, je me débattais avec ces trucs-là. Et mon conjoint, lui, très vite est revenu à sa vie normale. Et je crois que je lui en ai voulu aussi de ça. Et ce décalage entre la mère et le père, ça crée forcément des tensions. Donc il voyait bien que j'étais en colère, il voyait bien que j'étais pas bien. Mais il avait beaucoup de mal à me soutenir, à me consoler. Parce qu'il était dans l'incompréhension totale. Il pensait que, comme beaucoup, bah, c'est super, t'as un bébé, pourquoi t'es pas heureuse ? Et oui, bon, t'es fatiguée, mais ça va passer. Donc, il y a eu un problème aussi dans le couple. Et à un moment donné, ça a été aussi un peu cassé à cet endroit-là.
Comment ça a évolué, ça ?
Eh bien, des disputes, et puis des conversations plus apaisées aussi. J'ai commencé à entamer des lectures et à écouter des podcasts, féministes, pour... Parce que c'est là que je trouvais en fait le soutien que j'avais pas dans la vraie vie. À un moment donné, je me suis tournée vers des podcasts, des interviews, vers des documentaires pour déjà comprendre ce qui m'arrivait et comprendre que je n'étais pas seule. Et à partir de là, à partir du moment où j'ai pu faire un pas en arrière et voir que je n'étais pas seule à vivre cette situation et à trouver ça difficile, à voir que je n'étais pas personnellement en échec, mais que c'était quelque chose de plus global, plus systémique, j'ai pu ensuite en parler un peu plus calmement avec lui et à lui exposer, moi, mes problèmes, mais surtout celles de toutes les autres mères. En fait, c'est en allant vers l'universel que j'ai réussi à parler de moi. Par ailleurs, j'ai aussi vu une psychothérapeute qui m'a aidée à traverser des moments difficiles et qui a été une oreille incroyable et un soutien très important. Et puis, c'est en m'engageant, justement, en rencontrant d'autres femmes et en fondant une association, que mon compagnon a vraiment pris conscience, je crois, de l'ampleur de ce qui m'était arrivé. C'est mon engagement qui lui a signalé que c'était assez grave. Et il m'a soutenue, il respecte énormément les combats que je mène avec l'asso, et on en parle souvent, comme un médiateur.
De votre colère à la création d'une association, comment vous avez cheminé pour aller vers cette transformation ? J'imagine, vous vous sentiez pas bien, vous n'avez pas dit « je vais m'intéresser au féminisme, ça va m'aider ».
Non, pas du tout. Non, ça a été de fil en aiguille. En fait, le lien entre ma colère, mon mal-être et la création de l'asso, ça a été de constater que mes amis autour de moi vivaient la même chose aussi. J'étais en difficulté, moi. Mais au-delà de ça, j'étais très en colère de voir que mes amis, ma sœur qui avait un bébé juste après moi aussi, ont toutes été en difficulté et ont toutes les mêmes doléances que moi. Et donc je voyais bien que c'était quelque chose de plus grand que moi et d'assez commun. Et ça me révoltait. Je me disais, mais c'est pas possible. Toutes ces femmes de mon âge qui font des enfants, qui sont des femmes indépendantes, très libres... Et tout d'un coup, elle s'effondre. Et beaucoup ont fait soit des dépressions, ont un grand mal-être,
ou sont séparés de leurs compagnons, etc. Et je voyais que ça n'allait pas du tout. Et donc, en discutant avec elle, je me suis dit, bon, bah, il faut qu'on fasse quelque chose ensemble. Et puis, il y a eu aussi un grand déclencheur qui a été l'écoute d'un podcast que vous connaissez peut-être, qui s'appelle Un podcast à soi, de Charlotte Bien-Aimée. Un podcast documentaire dont l'épisode 4, qui s'appelle Papa au thé, a eu un grand effet sur moi, parce qu'en l'écoutant, j'ai eu l'impression qu'on mettait mes mots dans un documentaire et qu'on parlait à ma place. Ça a été à la fois très rassurant et en même temps, ça m'a remonté encore plus. J'étais très remontée après l'écoute de l'épisode. Et j'ai écrit à Charlotte Bien-Aimée pour lui demander qu'est-ce que je peux faire. Voilà, en fait, j'en peux plus d'être passive, de vivre cette situation sans pouvoir rien faire, et je voudrais que ça change, qu'est-ce que je peux faire? Et elle m'a dit de rentrer en contact avec une des femmes qui était intervenue dans son épisode, Amandine, chose que j'ai faite. Et Amandine voulait créer une association féministe autour de la parentalité. On s'est rencontrés, on a créé l'association. Donc ça a été vraiment une rencontre un peu...
Donc, association parents et féministes.
C'est ça, on s'appelle parents et féministes.
En quoi vous êtes devenue féministe, Claire ?
Je suis véritablement devenue féministe en devenant mère, parce qu'avant ça, je ne pensais pas à ces choses-là. C'est-à-dire que mon regard sur la société, ma vision de la vie n'était pas du tout axée sur le genre, ou je ne voyais pas de discrimination à mon égard en tant que femme. Je vivais ma vie comme si j'étais un homme. Je ne me voyais pas d'ailleurs comme une femme, je me voyais comme un individu. Et je n'avais jamais été victime de discrimination. J'ai été victime de racisme, ça c'est encore autre chose, parce que je suis d'origine asiatique. Mais par contre, je n'ai jamais été discriminée en tant que femme. Et je vivais ma vie comme ça, en me disant que voilà, je pouvais tout faire. Parce que j'ai été éduquée comme ça, dans l'idée que je pouvais faire tout ce que faisaient les hommes. Et en devenant mère... j'ai senti que je remplissais une fonction qu'on attendait de moi. Donc déjà, ça m'a énervée. Et je sentais qu'on attendait de moi un sacrifice qu'on ne demandait pas aux hommes. Or, on est bien d'accord, on fait un enfant à deux. La plupart du temps. Dans la majorité des cas. Ça m'a révoltée de voir qu'on attendait de moi un sacrifice plus grand, d'être parfaite. Qu'on ne me donnait pas le droit de me plaindre. Et tout d'un coup, toutes ces injonctions qui sont faites aux mères, elles m'ont révoltée, vraiment. C'est-à-dire qu'en fait, toute la charge parentale qui incombe aux mères de manière systématique, la manière dont on nous demande non seulement donc, de s'occuper de nos enfants, mais aussi de notre foyer, de mener une carrière, d'être belle, d'être mince, d'être ceci, d'être cela, en fait, c'était trop. C'était trop. Je me suis naturellement tournée vers le féminisme, parce que le féminisme, c'est ça, c'est combattre ce système patriarcal qui oblige les femmes à être des bonnes mères. Et avant ça, je ne me sentais pas concernée. Donc en fait, c'est assez égoïste comme démarche. Ça part d'un sentiment très personnel et sur une injustice que j'ai sentie moi, et qui ensuite s'est élargie vers une réflexion sur l'ensemble de la société, mais comme ça ne me concernait pas avant. La charge mentale, je ne la sentais pas avant, parce que bon, j'avais l'impression de vivre dans un couple égalitaire, j'avais l'impression qu'on faisait un peu chacun. L'arrivée de l'enfant a fait voler en éclats cette idée que le couple est égalitaire, en fait, il ne l'était déjà pas avant, mais je ne le voyais pas. Et donc j'ai ouvert mes yeux, mais je ne peux plus les refermer, littéralement. C'est un vrai changement.
Pourquoi vous luttez à travers l'association Parents et Féministes ?
Nous luttons contre plein de choses, mais les axes qui ont vraiment les piliers de l'association, c'est nous nous battons pour un soutien aux mères et aux parents, un soutien postpartum. Notamment, on a créé des groupes de parole pour soutenir les mères et les sortir de l'isolement. Parce que le point commun et ce qui nous a fait nous réunir en association, c'est que toutes nous avons vécu cet isolement en postpartum. On pensait avoir nulle part où aller. Or, en fait, il existe des endroits où on peut aller, mais on ne le sait pas. Il y a un manque d'information, un manque de transparence sur ce qui peut exister, notamment des groupes de parole. Donc, nous avons décidé de faire les nôtres, de parler justement de libération de la parole en général, de dire que voilà, le postpartum existe et on peut en parler, c'est pas tabou. Il faut parler des difficultés
qui peuvent être rencontrés pendant cette période, parce que c'est en libérant la parole et en parlant entre nous que on va pouvoir avoir moins honte de ce qu'on traverse et sentir moins de culpabilité. Ce qui m'a frappée, c'est que beaucoup de femmes disent « je me sentais nulle, j'avais l'impression d'être un échec, d'être dans l'échec, de ne pas être une bonne mère, de ne pas être à la hauteur ». En fait, non, on n'est pas en échec et ce n'est pas de notre faute. C'est la société qui met en échec les mères parce qu'elles ne sont pas soutenues à la sortie de la maternité. On est très, très, très contrôlés, on est très préparés à l'accouchement, mais pas du tout pour l'après. Donc, c'est normal qu'on soit perdu, qu'on se sente mal, que ce ne soit pas une évidence. Donc, nous, en tant qu'asso, on voudrait un peu briser le tabou autour de ça, autour du postpartum. On a aussi à cœur de faire de la pédagogie et de l'éducation contre le sexisme dès la petite enfance. Parce que une des raisons aussi pour lesquelles ce système patriarcal se perpétue, c'est parce que les enfants sont éduqués différemment du sexisme dès la crèche. Même dès d'ailleurs in utero, en fait. On n'éduque pas les petites filles et les petits garçons de la même façon. Donc on est des ferventes... On croit beaucoup à l'éducation non sexiste. Et on essaye, à travers nos réseaux sociaux et à travers des ouvrages, des recommandations de lecture, de distiller un petit peu des clés pour une éducation non sexiste. On soutient également un plaidoyer politique pour l'allongement du congé paternité et pour son caractère obligatoire, qu'il soit protégé. Parce qu'on pense que la place du père doit être est essentielle, en fait, dans le soutien à la maternité et dans l'éducation non sexiste. Parce que quoi de mieux dans une éducation non sexiste que d'avoir un père présent et qui fait la moitié des tâches. On travaille également contre les violences obstétricales et gynécologiques. Parce que la période de grossesse est aussi une période de grande vulnérabilité et on a recueilli beaucoup de témoignages de violences. C'est absolument scandaleux, en fait, ce que vivent des femmes pendant leur grossesse et leur accouchement. Il y a beaucoup, beaucoup de sujets qu'on essaye d'aborder dans l'asso, mais ça, c'est vraiment les grandes lignes. C'est beaucoup de travail, mais je trouve ça passionnant et ça donne beaucoup de sens à ma vie.
Merci Claire. Je vous propose maintenant qu'on se connecte avec Fabienne Lacoude. Bonjour Fabienne Lacoude.
Bonjour.
Vous êtes journaliste, autrice, fondatrice de MILF, un média féministe autour de la maternité, et vous êtes mère d'une fille de 5 ans. Dans mon cabinet, les femmes que j'accompagne se sentent bien souvent malmenées lorsqu'elles deviennent mères, pour plein de raisons différentes, comme vous venez de nous le dire, Claire. Cependant, cette question du décalage entre ce qui est attendu et ce qui est vécu est quelque chose qui revient très fréquemment. Et il peut susciter, comme pour vous, Claire, de l'injustice, de la colère, qui amène à s'interroger sur la manière dont on souhaite prendre soin de soi, de son enfant, la place que l'on donne aux femmes, aux mères et aux pères dans notre société. J'observe que beaucoup de femmes, du coup, s'intéressent à ce moment-là au féminisme en lien avec le fait de devenir mère. Tout d'abord, Fabienne, qu'est-ce que c'est que le féminisme ?
Alors, le féminisme, c'est un courant très divers. Donc, il y a beaucoup de définitions possibles. On résume souvent le féminisme à la lutte pour l'égalité entre les hommes et les femmes. Ce qui me paraît à moi un petit peu réducteur, puisque les hommes entre eux ne sont pas égaux et les femmes entre elles ne sont pas toutes égales non plus. Du coup, on pourrait se demander quelles femmes veulent être les égales de quels hommes et que produirait cette égalité. Donc moi, je préfère présenter le féminisme comme une lutte contre le patriarcat, qui est une forme d'organisation sociale fondée sur la détention du pouvoir par les hommes. Et donc ce système, il organise, il permet, il reproduit l'oppression des femmes par les hommes, notamment par la division genrée du travail, par l'appropriation des richesses, par l'appropriation du corps des femmes, par l'exploitation du travail reproductif. Et donc le travail reproductif, c'est le fait de faire les enfants, mais c'est aussi tout ce qui concerne le travail domestique, ça va être également tout ce qui consiste à apporter du soin aux autres, aux enfants, aux personnes âgées, etc. Donc c'est quelque chose d'assez large, le travail reproductif, et donc il y a une forme d'appropriation de ce travail-là par les hommes. Et du coup, pour moi, le féminisme, c'est une lutte d'émancipation, qui ne visent pas en fait nécessairement l'égalité avec les hommes dans un monde pensé par les hommes pour les hommes. De toute façon, les hommes sont toujours le neutre et les femmes seront toujours l'autre, mais plutôt l'émancipation de toute forme de pouvoir et d'injonction. Et j'aime bien l'idée de penser un monde à soi, libéré des injonctions hétéropatriarcales, mais aussi raciste, capitaliste, libéral, etc. Donc en fait, le féminisme, on peut aussi le penser comme interconnecté avec toutes les autres formes de discrimination et d'oppression et d'injonction.
Claire, vous nous disiez que c'est dans le postpartum qu'a émergé cette colère, mais est-ce que vous avez pu percevoir une forme de pression, d'oppression patriarcale dès votre grossesse ?
Alors moi, j'ai été suivie pendant ma grossesse par, pour mon fils, mon premier enfant, par une médecin, donc une femme, et pour ma fille, l'année dernière, par une sage-femme. Donc j'ai été suivie par des femmes, donc ça c'était un choix, parce que je savais que j'avais envie justement d'être suivie par des femmes et d'être dans un cadre où je risquais moins des violences gynécologiques et obstétricales, bien que des femmes peuvent les perpétuer aussi. Malheureusement, ça existe. Globalement, j'ai senti beaucoup d'intérêt pour le sexe de mon enfant. On me demandait systématiquement, en voyant mon ventre, est-ce que c'est une fille ou un garçon ? Déjà, je trouve que c'est assez sexiste, hein. Le côté, on veut absolument savoir. C'est important de connaître le sexe. Et une fois qu'on l'a dit ou pas, en l'occurrence, mon fils, je savais que ça allait être un garçon. Il y a toutes sortes de projections qui se font sur cet enfant. Quand j'ai eu mon deuxième enfant, j'ai souhaité ne pas connaître son sexe jusqu'au jour d'accouchement. Et les gens ne pouvaient pas s'empêcher de projeter quand même. De me dire, la taille de ton ventre, la forme de ton ventre, ça veut dire que c'est une fille, c'est un garçon. Et les gens voulaient absolument, évidemment, que j'aie une fille, puisque j'avais déjà un garçon, parce qu'il faut, le choix du roi. Mmh. Le choix du roi, c'est une expression extrêmement sexiste, déjà. Donc, oui, j'ai senti une pression de la société sur ces êtres en devenir déjà in utero.
Fabienne, du coup, quelles autres peuvent être les autres formes d'oppression patriarcale pendant la grossesse et l'accouchement ?
Ce qui est marrant dans ce que raconte Claire, c'est qu'en fait, on se rend bien compte que l'intérêt qui est porté aux femmes enceintes, on dit souvent, quand une femme est enceinte, c'est la reine, tout le monde prend soin d'elle, etc. Mais en fait, souvent, le soin qui est porté aux femmes enceintes, il est avant tout porté au fœtus qu'elles sont en train de porter et de faire grandir à l'intérieur d'elles-mêmes. Et donc, c'est une attention qui est portée avec, de manière intéressée, disons, à la femme qui porte, en fait, le fœtus. Enfant. Et donc, on s'intéresse beaucoup à ce futur bébé et donc déjà à l'après, avant de s'intéresser à la femme elle-même et à ce qu'elle est en train de vivre. Et effectivement, la grossesse, c'est un moment où les femmes sont particulièrement contrôlées dans absolument tous les aspects de leur vie. Sur leur poids, qui est peut-être l'élément qu'on contrôle le plus pendant la grossesse. Alors c'est incroyable parce qu'on sait qu'on va devoir prendre du poids quand on est enceinte, que c'est absolument inévitable et que c'est même souhaitable, mais on ne peut pas s'empêcher quand même de contrôler ce poids. Donc aujourd'hui, il y a une injonction à prendre peu de poids, peu de kilos. Et donc, derrière les arguments santé, moi, je perçois aussi un argument à rester belle, à rester désirable, à rester productive, c'est-à-dire en forme, etc. Donc, on va aussi vous encourager à continuer à faire du sport. Voilà, il y a tout un imaginaire aussi autour des femmes enceintes qui doivent être encore en forme et encore productives aussi longtemps que possible. Et ce contrôle-là sur le poids, il va aussi de pair avec un contrôle sur l'alimentation, qui est aussi très présent. Et en fait, il y a toute une liste d'aliments interdits, de manière fondée pour certains d'entre eux, c'est-à-dire qu'il s'agit d'éviter certains troubles infectieux. Mais encore une fois, on va vous asséner cette liste de manière complètement arbitraire. Ça, c'est interdit, ça, c'est interdit. Donc, c'est comme ça. Et personne ne vous explique réellement pourquoi vous n'avez pas le droit de manger des sushis, pourquoi vous n'avez pas le droit de manger du fromage ou lait cru, pourquoi vous n'avez pas le droit de manger de la charcuterie, et qu'est-ce que vous risquez réellement à le faire, c'est-à-dire que sans diaboliser les choses, juste présenter aux femmes quelque chose de l'ordre du bénéfice-risque et qu'elles puissent se faire une idée par elles-mêmes de ce qu'elles risquent et si elles décident de prendre le risque, oui, je mange cette tranche de salami ou non, je la mange pas. Mais en tout cas, ça, c'est complètement occulté au profit de c'est comme ça et c'est pas autrement. Parce qu'en fait, on pense à la santé du futur bébé et donc il est absolument hors de question de déroger. Et moi, j'y vois une première forme d'expression ou de test de la bonne maternité. C'est-à-dire, si tu es capable de te priver d'un certain nombre de choses pendant ta grossesse, dans l'intérêt de ton futur enfant, tu es déjà une bonne mère. Et je pense que c'est pour ça aussi que beaucoup de femmes ne questionnent pas ces injonctions-là et ne cherchent pas à les remettre en question, parce que ça pourrait vouloir dire qu'elles ne sont pas des bonnes mères, parce qu'elles ne veulent pas le meilleur pour leur bébé et qu'elles pensent plus à manger un bout de camembert qu'à la santé de leur futur bébé, quoi. Donc ce contrôle-là, il est très prégnant.
En tout cas, là, dans ce que vous dites, Fabienne, j'entends l'infantilisation des femmes.
Complètement. Complètement, c'est comme si elles ne s'appartenaient plus, en fait. Notre corps, dès lors qu'il est enceint, il est plus totalement à nous. En fait, on doit penser avant tout à ce futur bébé. Donc, notre corps est bien un véhicule.
Ouais, l'infantilisation et le manque d'information, voilà, comme si les femmes ne pouvaient pas recevoir une juste information. En tout cas, ouais, beaucoup de femmes que je reçois qui, lors d'une première grossesse, entre guillemets, ont suivi les traces toutes faites, donc le médecin, gynécologue, qui ont subi des touchés vaginaux qui ne sont pas obligatoires ou nécessaires pendant tous les mois de la grossesse, qui parfois ont subi des violences obstétricales, bon, pas toujours, mais parfois, mais qui ne savaient pas qu'il y avait d'autres options, d'autres alternatives, d'autres manières aussi de pouvoir être accompagnée, donner naissance, accoucher.
Et c'est drôle parce que, en écoutant Fabienne, je me rends compte que j'ai aussi été très critiquée pour ma prise de poids pendant mes deux grossesses, parce que j'ai pris respectivement d'abord 18 kilos puis 20 kilos. Et les deux fois, on m'a reproché de prendre trop de poids. Et les deux fois, je me suis sentie très coupable. Surtout la deuxième fois d'ailleurs, pour ma fille, parce qu'on m'avait soupçonné un diabète gestationnel. Finalement, c'était une fausse alerte, mais je me suis sentie très très coupable de prendre du poids, alors que j'ai reperdu très vite mon poids de grossesse et que je suis en très bonne santé, mes deux enfants aussi. Mais c'est vrai que c'est en vous écoutant le dire que je me suis rendu compte que c'était aussi une forme d'oppression, ça.
Oui, puis c'est vrai que du coup, il y a cette impression qu'il vaut mieux occulter un certain nombre de choses pour le bien de la mère et du futur enfant à naître. Il vaut mieux pas trop leur dire, parce qu'il y a aussi toute cette imaginaire selon lequel le stress n'est pas bon pour les femmes enceintes et que le bébé ressent le stress de sa maman déjà à l'intérieur du ventre. Et donc, pour pas stresser madame, on va en fait pas lui expliquer, ce qui me paraît absolument contre-productif en fait. Hein. Non, il faut affirmer que les femmes enceintes s'appartiennent encore, que leur corps continue de leur appartenir et que donc elles doivent être pleinement maîtresses et décisionnaires de toutes les décisions et de tout ce qui est pratiqué sur leur corps pendant cette période. Et effectivement, l'exemple des touchés vaginaux, il est excellent. C'est contraire aux recommandations hein, que de pratiquer un toucher vaginal systématique à toutes les consultations de grossesse. Certaines femmes sont rassurées et le demandent, ça c'est très bien, mais le professionnel à aucun moment ne doit vous imposer un toucher vaginal, encore moins sans votre consentement, alors que c'est pas du tout obligatoire. Et tant qu'il n'y a pas d'autres signes, comme des contractions par exemple, des pertes de sang, que sais-je, il n'y a pas de raison d'aller vérifier que ce col est fermé. A priori, ce col est fermé, tout va bien.
Vous parlez de tous ces actes qui peuvent être pratiqués sans consentement. Dans un épisode de parentalité, on a abordé cette question des violences obstétricales et gynécologiques. Et Marie-Hélène Lahaye nous a bien expliqué hein, que tout ça, c'était aussi structurel et le signe d'une volonté de contrôler le corps des femmes par la société.
Complètement, oui. Mmh. Je pense vraiment que la médicalisation progressive de la grossesse et de l'accouchement a vraiment abouti à un contrôle du corps des femmes. Hein. Et puis, Laetitia Négrier et Béatrice Cascales, dans leur livre « L'accouchement est politique », elles vont même encore plus loin. Elles parlent d'un conditionnement à la soumission au moment de l'accouchement et que donc les violences perpétrées sur le corps des femmes au moment de l'accouchement seraient une forme de dressage, hein, finalement. Voilà, soumets-toi et tu l'auras appris par la violence. Donc, c'est aussi une manière de voir les choses. Mais en tout cas, c'est évidemment structurel. Et l'effet pervers de ça, c'est que aujourd'hui, en fait, l'accouchement médicalisé, c'est devenu complètement la norme. Hein. Dans tout l'imaginaire autour de la grossesse et de l'accouchement, on en vient à penser et à imaginer que les femmes ne savent pas et ne sont pas en capacité d'accoucher par elles-mêmes. Et on lit très régulièrement ces articles de presse sur des femmes qui ont accouché inopinément dans la voiture, au bord de la route ou chez elles, alors que c'était pas prévu. Et alors les pompiers arrivent et miraculeusement donnent naissance à ce bébé. Et c'est comme si la femme n'était pas là, en fait, que c'était pas elle qui avait donné naissance à son bébé. On dit les pompiers ont accouché la femme ou le mari a accouché sa femme. Non, jusqu'à preuve du contraire, ce sont encore les femmes qui accouchent. Parfois avec le besoin d'une aide médicale, parce qu'il ne s'agit pas de refuser l'aide médicale en bloc, pas du tout. Parfois, c'est absolument nécessaire. Parfois, les femmes le souhaitent. Mais dans tous les cas, ça reste les femmes qui accouchent. Ça, il n'y a aucun doute là-dessus. Quoi.
Oui, et une femme qui accouche et qui a confiance et qui sait qu'elle peut le faire est une femme extrêmement puissante. En tout cas, on peut se demander, cette puissance, elle fait peut-être peur.
Absolument, tout à fait. Et l'accouchement est parfois vécu de manière... ça peut occasionner une forme de révélation aussi de l'ordre de « Mon Dieu, mais en fait, je suis une déesse, je peux faire un truc de fou, quelle puissance j'ai, etc. » Et puis, parfois, il y a même des accouchements orgasmiques, hein, ça existe. Donc, c'est très différent, la réalité est très différente de tout l'imaginaire de la grossesse, de l'accouchement, qui serait quelque chose de très dangereux. Et où on a besoin absolument que des médecins soient là pour nous aider, parce que sinon on n'est pas capable et tout. La réalité, elle est très très différente de ça, et elle est très variable selon les femmes.
En tout cas, Claire, vous nous avez dit, voilà, face à ces injonctions, voilà, vous avez ressenti de la colère, de la révolte, de la tristesse aussi. Fabienne, d'où viennent ces injonctions et qui alimentent tous ces sentiments qu'ont pu ressentir Claire?
Ben Claire, elle disait très bien hein, qu'elle a eu le sentiment d'être en échec, et c'est presque inévitable en fait que de se sentir en échec, vu qu'en fait toutes les représentations qu'on a de la maternité, elles sont à la fois monolithiques, c'est-à-dire que c'est beaucoup tout le temps la même image qu'on retrouve, notamment sur les réseaux sociaux. Donc de femmes plutôt blanches, plutôt de classe moyenne, plutôt éduquées, et qui vont être dans une forme de maternage proximal, avec ensuite ça découle sur la parentalité positive. Et puis ces femmes-là, elles restent belles, épanouies, elles montrent que les bons côtés de la maternité. Et puis elles vont cuisiner les bons petits plats. Et puis elles font attention de mettre à leurs enfants des beaux habits en coton bio. Et puis chez elles, c'est toujours hyper beau. Et puis même leur matériel de puériculture, il est beau. Même leurs biberons, ils sont beaux. Tout est beau en fait, et tout est parfait. Il n'y a jamais 3 tonnes de vaisselle dans l'évier, etc. Donc ça produit une image quand même très exigeante, à laquelle il est quand même quasiment impossible de se conformer, du moins pas tous les jours et pas entièrement. Donc du coup, ça produit l'effet évident, le sentiment évident qu'on n'est pas assez bien, parce qu'elles y arrivent et nous, on n'y arrive pas. À part qu'en fait, on oublie de dire que ces personnes, c'est leur travail. Donc, elles ont le temps de le faire. Et puis, c'est un choix que de pratiquer la maternité de cette manière-là et que de la valoriser, de la mettre en scène de cette manière-là. Donc, il ne faut pas oublier que d'une part, c'est un travail et d'autre part, c'est une mise en scène. Mais quand on le voit soit avec toute sa fragilité postpartum, avec toute sa vulnérabilité, avec toute son envie de bien faire, et avec toute son impuissance, parce que en fait on connaît pas ce bébé, on est en plein apprentissage et puis on se connaît pas soi en tant que mère non plus. Et donc quand on voit tout ça, quand on reçoit tout ça, bah évidemment qu'on se sent en échec et c'est normal. Ça peut pas être autrement.
Oui, et je rajouterais que en plus de l'image de la mère parfaite qu'on essaye de auquel on essaye de coller, au-delà de cette image de perfection auquel on voudrait tendre, il y a les injonctions paradoxales, par exemple sur l'allaitement. Moi, ce qui m'a beaucoup fait souffrir, c'est que l'allaitement, on nous dit, il faut allaiter, c'est ce qu'il y a de mieux pour votre enfant. Alors, il faut allaiter minimum 3 mois. Mais attention, il ne faut pas allaiter trop longtemps, parce que si on allait plus de 6 mois, c'est bizarre. Et donc, on ne sait plus quoi faire. Il faut allaiter, mais pas trop. Il faut être proche de son enfant, mais pas trop fusionnel, parce qu'après, voilà, c'est le problème. Le cododo, il faut, sauf que quand on allaite, évidemment, c'est quand même plus pratique d'avoir le bébé près de soi, parce que comme ça, on n'a pas besoin de se lever. Mais le cododo, pas trop longtemps, et puis après, il ne va pas réussir à s'endormir tout seul. La tétine, pas la tétine. Et en fait, j'étais perdue, parce que pour mon premier enfant, notamment, j'avais toutes ces recommandations qui étaient paradoxales, et je ne savais pas le vrai du faux, et je ne savais pas surtout ce qu'il fallait que je fasse moi. Je ne savais plus m'écouter moi, je ne savais plus écouter mon enfant, parce que je voulais faire bien. Et ça, c'est une grande souffrance, et je l'ai constaté avec beaucoup de mes amis. L'allaitement, ça cristallise quand même beaucoup de souffrance et de frustration, parce que justement, comme c'est le propre de la mère de pouvoir nourrir son enfant, et que c'est un truc uniquement féminin, je crois que ça cristallise vraiment justement cette oppression patriarcale.
En matière de maternité, en fait, tout le monde a toujours quelque chose à dire, et tout est son contraire, parce qu'évidemment, tout le monde a eu son vécu différent. Effectivement, les professionnels de santé, c'est un souci, parce que sans être formés, ils viennent avec leur certitude et vous disent « mais si, faites comme ça, c'est sûr ». Et puis l'autre d'après, elle dit « si, non, mais croyez-moi, moi j'ai suivi un séminaire à allaitement, donc… » croyez-moi, machin. Et en fait, du coup, il faut croire qui? Et un truc qu'on entend très souvent, c'est « non, mais fais comme tu le sens. Écoute-toi, fais comme tu le sens. » Mais en fait, au bout d'un moment, comment veux-tu que je m'écoute? Il y a tellement de bruit que je m'entends plus, en fait. Comment entendre ce qui vibre à l'intérieur de soi et ce qui va sonner juste pour soi-même, alors qu'il y a du bruit perpétuellement autour? En fait, il faudrait juste laisser l'espace de l'expérience, en fait, et du truc un peu par essai-erreur. Là, ça marche pour moi, ça marche pas. L'espace de l'expérimentation, de l'invention, etc. Et ça n'existe pas du tout, parce qu'on est toujours dans le dogme, dans les règles, dans les recettes. Je suis toujours sidérée par le fait que tout le monde dise « il n'y a pas de recette pour être parent, un bébé ne vient pas avec un mode d'emploi » et que pourtant, tout le monde s'échine à donner des recettes et des modes d'emploi. S'il n'y en a pas, alors n'en donnez pas et puis laissez chacune et chacun expérimenter à sa manière. Et le truc de l'allaitement, c'est effectivement, je suis tout à fait d'accord, ça cristallise tout, parce que ça vient chercher pile là où ça fait mal sur la culpabilité des mères, c'est-à-dire « c'est pour le bien de ton enfant ». Et comme c'est pour lui, il faut faire au mieux. Et personne ne veut faire mal pour son enfant. Donc du coup, ça marche très bien. Ça marche très bien, ça appuie pile poil sur le bouton de la culpabilité. Et en fait, ça coupe. Enfin, moi, je pense que ça coupe en fait les femmes de leur individualité, de la manière dont elles auraient peut-être envie, pourquoi pas, de créer leur propre maternité à leur façon. En fait, ça n'existe pas, quoi. Chacune n'est pas libre d'inventer son chemin.
En tout cas, vous nous disiez, Claire, que on pouvait entendre que toutes ces injonctions, en tout cas toutes ces représentations qui sont véhiculées partout dans la société, vous avez amené à construire une image de ce que ce serait qu'être une bonne mère, et que le fait de vous sentir en échec a suscité de la frustration, de la tristesse.
Oui, absolument. Étant quelqu'un de très perfectionniste par ailleurs, ça a titillé en moi une vraie frustration de pas faire comme il faut, et surtout de pas m'en sortir. Parce que au-delà de bien faire l'allaitement, de bien s'en occuper, etc., je me sentais en échec parce que je vivais très mal le manque de sommeil.
Et du coup, j'étais plus très lucide. À un moment donné, je perdais en lucidité, je pleurais beaucoup, voilà, il y avait un vrai mal-être. Et ce sentiment d'être débordée, ce sentiment de ne pas y arriver, et de ne pas y arriver avec le sourire, ça m'a beaucoup affectée. Parce que je suis quelqu'un de très dynamique dans ma vie, de très souriante. Voilà, je suis quelqu'un de très sociable. Et en fait, l'arrivée de mon enfant, je ne me reconnaissais plus. On dit aux mères, mais c'est normal, c'est une perte d'identité, mais on peut en retrouver une autre. Et on banalise le fait que, oui, on devient quelqu'un d'autre et puis on se sacrifie pour son enfant. Et puis maintenant, c'est lui ou elle le plus important. J'ai refusé ça. J'estime que je suis importante aussi. Et je dis souvent d'ailleurs, à la maternité, tout le monde prend le bébé dans les bras, mais personne ne prend la mère. Je voulais qu'on me prenne dans les bras et qu'on me dise, qu'on acquiesce, qu'on dise, ok, tu souffres, je prends ça, je le reconnais. Et je vais être là pour te soutenir, au lieu de me dire « mais non, ça va passer », de le banaliser, de le normaliser. Et voilà, et de me dire qu'en gros, c'était comme ça maintenant. Voilà, t'es une mère.
Qui n'est pas une invisibilisation de ce que vous viviez en
Exactement.
Tant que personne.
Ouais. Ouais, absolument.
Vous avez pu vous sentir jugée par d'autres femmes ?
Je ne sais pas. J'étais tellement dans le brouillard que j'avais la tête vraiment dans le guidon. Donc je ne sais pas, peut-être. Je crois que je me jugeais surtout moi-même, en fait.
Oui, en tout cas, dans la parentalité, il y a aussi cette injonction très forte que c'est devenu un domaine de réussite. Et vous disiez que vous étiez perfectionniste et du coup, en plus de votre vie, peut-être de votre vie professionnelle, il fallait aussi réussir ça.
Oui, absolument.
Il y a un autre domaine sur lequel il y a beaucoup d'injonctions, c'est en plus d'être une bonne mère, il faut être une bonne conjointe, en tout cas quand la femme est en couple. Et vous disiez, Claire, voilà, il y a eu aussi ce sentiment de décalage au sein du couple qui a suscité de la colère et du coup des tensions au sein du couple.
Oui, et c'est clair que la maternité, l'arrivée de l'enfant peut venir révéler un fort décalage dans le couple, notamment dans des couples qui auparavant se pensaient, se vivaient comme égalitaires, des couples dans lesquels la femme avait l'impression d'être libre, indépendante, autonome, où de manière assez fluide les tâches se répartissaient, où chacun gardait ses goûts, ses aspirations personnelles, pouvait sortir voir ses amis, enfin voilà, il y avait quelque chose de fluide et de simple, et qu'on avait l'impression d'avoir réussi à mettre en place, et puis l'enfant arrive là-dedans et patatras, en fait, ça fait tout voler en éclats, alors qu'on pensait peut-être que cette fluidité, elle allait couler de source et aller de soi et rester présente. Et en fait, non, parce que l'arrivée d'un enfant, c'est forcément un déséquilibre, et puis il y a clairement des attentes différentes vis-à-vis du rôle du père et du rôle de la mère. Et déjà parce que la mère, elle est là pendant minimum 3 mois après la naissance de son enfant, alors que le père, lui, il fait son congé de paternité, puis après il repart au travail. Et puis Claire disait tout à l'heure, j'ai l'impression que pour lui, ça n'a rien changé. Et je crois qu'effectivement, il y a ce truc que pour les pères, c'est juste l'enfant, c'est un truc en plus. Et c'est chouette, voilà, c'est un truc chouette en plus. Et j'ai l'impression que pour les femmes, c'est beaucoup plus ressenti comme un poids en plus, ou effectivement plus de responsabilités, plus de choses à faire, une nouvelle couche d'injonctions, etc. Mais aussi, on perd des choses parce qu'on a le sentiment de perdre cette indépendance chèrement acquise, à laquelle on était très attachés, et effectivement, pendant les premiers temps de la vie d'un enfant, c'est quand même extrêmement exigeant, et cette exigence, elle repose aussi beaucoup, beaucoup sur les mères. Et puis, il y a très rapidement un glissement qui se fait, enfin, comme si le postpartum et les premiers mois, les premiers temps de la vie de l'enfant, c'était la continuité de la grossesse, et que donc, de manière tout à fait naturelle, c'était aux femmes de s'en occuper. Et comme, de fait, ce sont les femmes qui s'en occupent, puisque ce sont elles qui sont à la maison, effectivement, elles développent des compétences pour s'occuper de leur bébé, parce que pour connaître une personne et pour savoir s'en occuper, et un bébé est une personne, donc c'est une relation à nouer avec un individu, quoi. Et pour nouer cette relation et apprendre à connaître une personne, il faut passer du temps avec lui. Et comme la mère est plus présente à la maison avec son bébé, elle apprend à s'en occuper. Du coup, elle sait mieux le faire. Et du coup, on considère que, de manière innée ou naturelle, ce serait plus facile pour elle. Et Et donc, ben, de fait, un décalage s'installe parce que, déjà, matériellement, elle s'en occupe plus et qu'on peut avoir le sentiment qu'elle s'en occupe mieux. Alors que si les pères étaient là plus longtemps, plus souvent, et puis que de temps en temps, ils se retrouvaient seuls aussi avec leurs enfants, pourquoi pas, et ben, ça leur permettrait tout simplement de développer des compétences parentales aussi. Ils seraient tout aussi doués pour s'occuper de leur bébé, parce que les pères sont tout à fait capables de s'occuper de leur bébé, il faut vraiment le dire.
C'est ce pourquoi vous luttez, Claire, au sein de l'association Parents et Féministes, l'allongement du congé paternité.
Absolument. On croit fortement que si les pères passaient plus de temps avec leurs nourrissons, ils pourraient s'en occuper tout aussi bien que les mères, qui, en effet, ont un congé maternité plus long. Il n'y a aucune raison, en fait, qu'un père n'apprenne pas à faire les soins au bébé et apprenne à se lier à cet être.
En tout cas, là, ce que vous dites, ça me fait penser à toutes ces femmes et mères que j'entends qui disent « ils m'aident » en parlant de leur conjoint.
Ah oui, mais ça me fait bondir.
J'ai envie de dire « il prend sa part ».
Oui, c'est clair, et c'est encore hyper présent, hein, ce truc de la mère et le parent par défaut, et puis le conjoint aide, c'est l'assistant, le commis, quoi, comme s'il avait pas sa responsabilité à 50% dans cette situation, c'est-à-dire qu'a priori, quand même, un enfant, on l'a fait à deux, et puis on est censé l'assumer à deux, quoi.
Et pour les pères qui prennent pleinement leur part, parce que il y en a de plus en plus, parfois c'est difficile aussi d'être perçu comme ce commis, comme vous dites, Fabienne, en tout cas, à l'école ou à la crèche, le parent qu'on va appeler en premier, c'est la maman, alors que parfois, c'est le jour du père. C'est en tout cas ce jour-là que le père s'occupe de l'enfant, mais ce n'est pas le père qu'on va appeler, c'est systématiquement la mère. Ou on se tourne systématiquement vers la mère quand ça concerne quelque chose autour de l'enfant.
C'est clair. Et puis, il y a tout un imaginaire aussi qui doit bien agacer les pères qui prennent leur place. C'est tout cet imaginaire qu'on appelle du papa con, c'est-à-dire le papa qui ne sait pas s'occuper bien de son bébé, qui met la couche à l'envers, un peu comme on voit dans le « Trois hommes et un couffin », où ils ne savent pas du tout se débrouiller. Il tient son gosse par le pied, il le transporte n'importe comment, il lui donne à manger pas du tout ce qui convient, etc. Et c'est tout un imaginaire comme ça qui existe sous couvert d'humour, etc., et qui perpétue l'idée selon laquelle les pères sont pas hyper capables de s'occuper de leur bébé et que les femmes, à l'inverse, seraient automatiquement capables de prodiguer des soins adaptés, des réponses ajustées. Bon, mais c'est pas du tout le cas. Enfin, pour l'un comme pour l'autre, ça s'apprend. Et a priori, une fois qu'on a acquis les compétences, ça se construit de manière tout à fait équivalente pour l'un ou pour l'autre, quoi.
Pour les femmes que j'accompagne qui sont en très grande difficulté, parfois en dépression du postpartum, souvent c'est le père qui va s'occuper davantage du bébé et faire tous les soins de maternage. Et généralement, ils le font très bien.
Mais d'ailleurs, vous venez de dire soins de maternage.
Ouais,
voilà, ça tout est dit.
Exactement, ouais.
Et puis on dit papa.
On est tous empreints de ça.
Et oui, ce sont des vies inconscients.
Par rapport à la vie professionnelle, beaucoup de femmes aussi qui décrivent un décalage à ce niveau-là.
Là, le constat sur la vie professionnelle, il est vraiment extrêmement sévère. Hein. Vraiment, il faut vraiment regarder les choses en face. C'est-à-dire que clairement, l'arrivée d'un enfant dans la vie professionnelle installe des inégalités. C'est un facteur extrêmement aggravant des inégalités professionnelles. Et on voit que l'arrivée d'un enfant va avoir tendance à booster la carrière des pères. Il y a une enquête de l'INSEE qui est parue en 2019 qui montrait que en moyenne, l'arrivée d'un enfant, ça occasionne une augmentation de salaire de plus 3% chez les pères et à l'inverse, de moins 3% chez les mères. Donc en fait, pour les pères, ben, y a ce côté respectabilité que donne l'enfant et qui va pas spécialement influer sur sa capacité à s'investir au travail. Donc du coup, pour lui, c'est vraiment, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est quelque chose en plus et c'est super. Par contre, pour la mère, ben, il va y avoir de toute façon une présomption de moindre investissement qui va souvent s'avérer vrai d'ailleurs, puisque non pas qu'elles s'investissent moins dans leur tête ou dans leur énergie au travail, mais que bah, elles vont plus souvent poser des temps partiels, qu'elles vont plus souvent s'absenter en cas de jour enfant malade, que c'est elles qu'on appelle en cas de problème, et donc quand vous devez sortir de réunion parce que on vous appelle pour votre enfant, bah, ça crée un imaginaire de ah, bah, voilà, elle est pas tout à fait là, elle est un peu à la maison, etc. Donc il y a tout un imaginaire qui s'installe et qui solidifie ce plafond de mer à fond. On se rend compte que l'écart entre les hommes et les femmes de salaire sans enfant, c'est 7%, et avec enfant, donc entre les pères et les mères, c'est 23%. C'est évidemment la maternité crée réellement un frein à la carrière des femmes et à leur évolution salariale. Alors pour autant qu'elles la souhaitent, hein, attention, on peut avoir envie de s'investir ailleurs ou de s'épanouir ailleurs, mais dès lors que les femmes ont envie de s'investir professionnellement et de développer une carrière, ben, c'est clairement un frein que d'avoir un enfant.
Quels sont alors, Claire, vous nous avez dit voilà, que vous avez transformé ce combat en une lutte, à la fois une lutte individuelle et puis une lutte politique. Quels sont les outils à disposition des femmes aujourd'hui, Fabienne ?
Agir, ça peut se faire de différentes manières. Et moi, je suis très attachée, comme le disait Claire tout à l'heure, à ce que les femmes parlent entre elles, effectivement. Et les savoirs des femmes en matière de maternité ont été disqualifiés et dévalorisés tout le temps, au fur et à mesure du temps, y compris les savoirs en matière au sujet du corps, quoi, et de ce qui se passe dans son corps au moment de la grossesse ou de l'accouchement, par exemple. On a eu tendance à dire, n'écoutez pas vos mères, n'écoutez pas vos sœurs, elles vous disent que des bêtises, ne prenez pas les remèdes de bonnes femmes, etc. Si bien qu'en fait, petit à petit, cette parole-là et ces savoirs-là ont été complètement dévalorisés. Et à l'inverse, on a un peu tendance à considérer que il faut pas écouter ce que nous disent les autres parce que ça va nous empêcher d'écouter les médecins qui, eux, ont la bonne parole, etc. Donc je pense qu'il est très important de se réapproprier nos savoirs, qui sont pas des savoirs médicaux, qui sont d'autres formes de savoir sur la maternité, parce que ça fait quand même un certain nombre d'années que nous portons des enfants et que nous accouchons. Donc je pense que ça produit forcément un savoir incarné et des choses qu'on peut se transmettre les unes aux autres, si possible dans la bienveillance, parce que c'est vrai qu'il peut y avoir des discours parfois un petit peu injonctifs aussi de la part des femmes entre elles. Donc voilà, il y a ce côté-là, je pense, de se réapproprier nos vécus, nos récits, les partager. Il y a tout un enjeu aussi, il me semble, autour de la représentation, montrer d'autres formes de maternité, montrer par exemple le postpartum, c'est aussi ce qui s'est passé pas mal avec le mouvement Mon Postpartum qui est l'année dernière, ouais, c'est montrer ces fameuses couches là postpartum, montrer le corps flasque, le corps avachi, le corps qui souffre, montrer les vergetures, montrer effectivement que un corps qui vient d'avoir un enfant, il est plus tout à fait comme avant, il est marqué et c'est pas forcément une mauvaise chose. Et puis peut-être qu'il faut arrêter de se poser la question si c'est une bonne ou une mauvaise chose, parce qu'en fait peut-être que c'est juste comme ça en fait. Donc je pense qu'il y a tout un enjeu aussi de représentation pour montrer des maternités plus nuancées, plus variées, plurielles, etc. Et puis, il y a évidemment l'option de la lutte politique, hein, puis c'est celle que Claire a choisie, et je pense que c'est absolument essentiel aujourd'hui de revendiquer que la maternité est politique, elle l'est clairement, elle a été très longtemps reléguée au privé, à l'individuel. On ne s'est pas beaucoup intéressé à ce qui se passait derrière les portes fermées des appartements, et c'était considéré comme quelque chose qui relevait absolument du privé et qui concernait pas du tout le politique. C'est pas du tout le cas, c'est complètement politique et il faut se réapproprier ces luttes-là pour lutter contre les violences obstétricales, qui sont clairement des violences faites aux femmes, et il faut les traiter exactement de la même manière. Lutter pour un congé de paternité digne de ce nom, lutter effectivement pour une éducation non sexiste, lutter pour une meilleure articulation de la vie pro et de la vie perso, parce qu'en fait c'est juste plus possible que les femmes elles fassent tout le temps et tout bien. C'est pas possible, il faut juste à un moment donné qu'on en fasse moins. Et je pense que le combat aujourd'hui, c'est juste de dire bon, on a fait la journée, la double journée, la triple journée, on va pas continuer à ajouter des journées sans cesse. Il y a un moment donné, il faut juste arrêter et en faire moins. Et puis, il y a aussi ce combat pour sortir de cette maternité hégémonique qui est blanche, bourgeoise, et qui donc occulte aussi d'autres formes de maternité qui sortent du cadre de l'hétéronormativité, des maternités qui ne sont pas blanches aussi, et les femmes racisées souffrent beaucoup de la manière dont elles exercent leur... souffrent beaucoup de la discrimination qui se pose sur la manière dont elles exercent leur maternité, qui peut-être diffère par moment de ce qui est attendu et des codes et des règles et des normes de la bonne maternité. Donc en fait, tout le monde a à gagner à ce qu'on détende un petit peu les cordes et qu'on puisse développer des maternités plus inventives, plus nuancées. Et la lutte politique a clairement sa place là-dedans. Et voilà, il y a des associations qui le font très bien, Parents féministes, le PAF, Maman Blues, le Front de Mère. Enfin voilà, on pourrait citer plusieurs associations qui travaillent sur ces sujets-là et c'est hyper important.
Devenir parent est une expérience qui amène à se reconnecter à soi, qui peut être un moment d'affirmation de soi, de ses besoins, de ses valeurs, de sa vision de la vie et du monde. Cette expérience parfois douloureuse, parfois heureuse, généralement complexe, peut susciter toute une palette d'émotions, comme vous nous l'avez bien dit, Claire. Vous avez souligné l'une et l'autre l'importance de sortir du silence, de libérer la parole sur ce que vivent les femmes autour de la maternité, de les remettre au centre, de les rendre actrices de ce qu'elles vivent et de leurs choix. La colère peut se transformer en action et permettre de faire évoluer la place des femmes, leurs droits dans notre société. Je recommande souvent des lectures à mes patientes. Claire, est-ce que vous auriez envie de recommander quelque chose aux personnes qui nous écoutent ?
Oui, un livre que j'ai lu qui m'a beaucoup marquée, qui s'appelle « Pourquoi les pères travaillent-ils trop ?» de Sylviane Guillaume-Pinault, qui est psychologue aussi. Un livre formidable qui est à la destination des pères, mais moi je l'ai lu et j'ai trouvé ça absolument prodigieux. Et ça explique pourquoi les pères travaillent trop et les mécanismes inconscients et conscients qui font que justement les mères sont les seules responsables des enfants aujourd'hui et qu'il y a un vrai sentiment de trahison.
Fabienne, qu'est-ce que vous nous recommanderiez ?
Alors,
j'avais envie de nous recommander plein de choses.
Ouais, j'avais envie de recommander un milliard de trucs. Donc, je vais me permettre d'en recommander deux. Et ce sera déjà pas mal. Donc, il y a un essai qui s'appelle Libérée, qui est un essai de la journaliste Titiou Lecoq, dont le sous-titre est « Le combat féministe se gagne devant le panier de linge sale ». Et donc, ça explore tous les aspects et tous les enjeux de la vie de couple et de la vie domestique. Ça travaille autour de tous les enjeux féministes du travail domestique. Voilà, donc je conseille vraiment cet essai. Et puis il y a aussi un livre qui est vraiment incontournable, qui est le roman La femme gelée de Dany Arnaud, et qui est le récit d'une femme active, indépendante, qui se sent libre, épanouie, et qui a le fort sentiment de se retrouver piégée dans la maternité, dans ses injonctions et dans ce travail domestique qui lui tombe dessus au moment où elle a ses enfants. C'est un récit autobiographique d'Annie Arnaud qui est vraiment sublime, et qui décrit parfaitement tout ce qu'on s'est dit aujourd'hui.
Puis moi, je recommanderais peut-être une série, la série canadienne Working Moms, qui casse un peu les stéréotypes et les représentations qu'on peut avoir autour de la maternité.
Autre série super sur la maternité sur Netflix, c'est The Letdown, qui est une série hyper réaliste, hyper drôle et qui est assez crue, et moi que j'ai adoré. Je me suis reconnue dans le personnage principal. Je le recommande vivement.
Merci beaucoup. Merci beaucoup, Claire, d'être venue partager avec nous votre vécu de la maternité et puis comment vous êtes devenue féministe. Bonne route pour votre combat.
Merci beaucoup, Mathilde.
Merci, Fabienne Lacoute. Je rappelle que vous êtes journaliste, créatrice du média féministe autour de la maternité, MILF.
Merci.
Pour ceux qui nous écoutent, vous pouvez nous suivre sur Facebook et Instagram pour continuer les échanges en toute bienveillance. Vous pouvez aussi nous écrire à l'adresse podcastparentalité@gmail.com. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à mettre 5 étoiles sur Apple Podcast et on se retrouve dans un prochain épisode.
Hold up. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.